être avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je rejoins en effet cette aventure que vous propose France Inter et qui a pour vocation de présenter l'inconscient. Docteur Nasio vous a rapporté de nombreux cas de patients depuis le mois de septembre et je me fais un plaisir de le rejoindre aux côtés de Laurie Loffer et Caroline Eliachef que vous entendrez les prochaines semaines. Chacun, chacune, à notre façon, tous les dimanches à tour de rôle, nous honorerons à ce micro ce rendez-vous sur le thème de l'inconscient. Pour commencer, je vais donc vous parler de cette étrange chose que Freud a nommée l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce donc ? L'inconscient, c'est tout d'abord une expérience. Il n'y a pas d'inconscient sans expérience de l'inconscient. Parce que l'inconscient n'est pas une notion abstraite. L'inconscient, c'est d'abord une expérience énigmatique, mystérieuse, que chacun peut faire et qui prend forme dans l'analyse. C'est donc une chose concrète que l'on rencontre de façon toujours surprenante sans jamais l'avoir prévue. L'inconscient nous surprend. Il nous rattrape, il nous fait apercevoir ce que nous n'avions encore jamais vu. Alors, pour vous dévoiler quelque peu comment cette expérience peut surgir, j'ai envie de vous parler des rêves. Du rêve même, en tant que le rêve est en lui-même une expérience hors du commun, une aventure subjective qui nous propulse en un lieu où nous ne pensions pas être. Ensuite, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées suite à l'écoute du podcast déjà en ligne sur le site de l'inconscient, sur franceinter.fr. Rêvez donc. Vous êtes prêts ?
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Rêver la nuit, c'est continuer de dormir. Mais c'est aussi, quelquefois, être réveillé par un rêve alors qu'on dormait. C'est aussi s'en souvenir au petit matin, par bribes, par morceaux, par fragments. C'est être poursuivi par le sentiment d'avoir rêvé de quelque chose sans pouvoir retrouver le fil. Qui n'a jamais fait cette expérience ? Rêver semble être la chose du monde la mieux partagée. Et pourtant, rêver est une expérience hors du commun, qui nous laisse parfois au réveil interrogatifs, perplexes, démunis. Mais pour s'en apercevoir, encore faut-il accorder de la valeur à ses rêves. Faire un rêve et parvenir à s'en souvenir quelque peu, c'est toujours être confronté à une histoire digne d'étonnement, à laquelle il manque un chapitre pour que je puisse en saisir la signification. Le rêve semble me montrer quelque chose sans pour autant me transmettre un message clair. Mais pourquoi donc ai-je fait ce rêve, puis-je me dire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? S'intéresser à un rêve, c'est donc déjà tout simplement se demander « mais qu'est-ce que cela veut donc dire ?» C'est tout d'abord être confronté à une énigme. Et ensuite, consentir à cette énigme. Ne pas réduire le rêve à un effet somatique, dû à des sensations internes au corps, ce qu'il peut être aussi, par endroits. Ne pas le dédaigner. Il n'est pas donné à tout le monde de s'intéresser à ses rêves. Certains vont y être indifférents, ne pas se laisser déranger par ce qu'ils ne comprennent pas. D'autres vont même ne jamais s'en souvenir. Et après tout, il n'y a pas à s'en offusquer. C'est aussi le sort du rêve de se perdre, de s'effacer, de disparaître. Mais d'autres vont se sentir concernés par un rêve, comme si le rêve avait quelque chose à leur apprendre sur eux-mêmes. Peut-être une vérité cachée ou un désir méconnu. C'est alors que rêver peut devenir une expérience trouble et troublante qui nous ouvre la porte d'un autre monde. Lorsque l'on est engagé dans une psychanalyse, on apprend à s'intéresser toujours plus à ses rêves. Il faut donc des conditions pour pouvoir accorder de la valeur à ses rêves. On s'en souvient mieux à la mesure de l'expérience que l'on fait en analyse, d'avoir rencontré quelqu'un à qui adresser ses rêves, à qui les dire, un destinataire qui accorde du poids à cet étrange message qu'est un rêve. On se met même à les écrire pour ne pas les perdre. Le psychanalyste, qui écoute le récit du rêve, même s'il n'en reste que des bribes, s'intéresse à l'énigme du rêve.
Vous savez plus quoi dire, là.
Est-ce qu'on peut revenir sur votre rêve d'hier soir?
Ça sert à quoi?
Par sa parole, il peut apporter un éclairage qui permet de voir autrement le rêve. Quelquefois, il arrive même qu'on rêve du psychanalyste comme de celui à qui on adresse ses rêves. Comme si ce qu'on avait à lui dire vraiment, on le disait dans un rêve. Ainsi, l'analyse se poursuit entre les séances, au cœur de la nuit, alors que la conscience sommeille et n'exerce plus de contrôle sur nos pensées.
Donc j'attendais mon père dans une chambre d'hôtel et quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert, c'était un homme. J'ai compris que cet homme était un genre de terroriste et qu'il allait s'en prendre à mon père. Mais c'était trop tard.
Cette chambre d'hôtel, vous la connaissiez?
Non, je pense pas.
Vous pourriez essayer de la décrire?
Bah, tout était sombre. Ça ressemblait plus à un tunnel ou à une grotte.
Et le terroriste, vous pourriez le décrire?
Pareil, je le voyais à peine. Il n'arrêtait pas de me parler, mais moi je comprenais rien à ce qu'il disait.
Il parlait dans une langue étrangère?
Non, en français. Mais c'était incompréhensible. Vous y comprenez quelque chose?
Et cet homme assis près de vous, qui parle une langue que vous ne comprenez pas, ça vous évoque rien?
Bah, le seul qui me parle comme ça, c'est vous. C'est impossible. C'était pas vous, j'en suis sûre.
Qu'est-ce qu'il y a?
Le terroriste. Il avait vos chaussures. Alors ce serait vous?
Cette expérience de l'inconscient, chaque psychanalyste a commencé par la faire en lui-même, au cours de sa propre analyse, avant d'être l'interprétant des rêves des autres. Ce n'est donc pas, vous l'avez bien compris, d'une expérimentation scientifique qu'il s'agit, mais d'une expérience subjective par laquelle nous passons lorsque nous consentons à déchiffrer ce qui nous arrive dans un rêve et que nous ne comprenons pas. Je vais donc maintenant vous parler d'un rêve. D'un rêve que j'ai fait alors que j'étais en analyse depuis plusieurs années déjà, et alors que j'abordais un nouveau moment de mon parcours de déchiffrement de l'inconscient. C'est un rêve que j'ai fait dans un moment où je m'approchais, sans le savoir, de la fin du parcours de l'analyse. Au cours d'une analyse, on fait souvent beaucoup de rêves, on en raconte beaucoup, mais certains d'entre eux se détachent. De certains, on se souvient comme s'il s'était démarqué des autres rêves. On s'en souvient même comme d'une expérience qui a touché notre corps. Ce rêve que je vais vous dire, je m'en souviens encore, bien que je l'ai fait il y a longtemps maintenant. Il faisait entrer en jeu ma boîte mail. Il était drôle, mais aussi légèrement angoissant. C'est peut-être cette angoisse qui ne se laisse pas oublier. Quel est ce rêve? Que j'appellerais le rêve de la boîte mail. Pour la première fois, je voyais en rêve ce monde qui fait partie de notre quotidien à tous depuis le début du XXIe siècle et qui est l'écran de l'ordinateur. C'est un rêve que j'ai fait au retour de vacances, après un moment où je m'étais autorisé un temps de déconnexion. Le rêve était le suivant. Je rêve cette nuit-là que j'ouvre mon ordinateur et je cherche à réceptionner les mails envoyés en mon absence. J'active la fonction « recevoir » et je vois apparaître peu à peu une série de nombres correspondant au nombre de messages à recevoir. 1, 2, 3, 4, 5, puis des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, et la série se poursuit ainsi, sans que la boîte mail puisse rien réceptionner du tout. Tant la quantité de messages envoyés tend vers l'infini. La suite se poursuit sans point d'arrêt. Je me demande dans le rêve comment je vais faire pour réceptionner et pour lire tous ces messages qui n'arrivent pas. Et j'en éprouve une légère angoisse. Fin du rêve. Au réveil, je suis tout de même amusée par ce rêve qui fait écho à notre condition de vie, celle des êtres connectés, qui fait écho aussi à la quantité de messages que nous pouvons recevoir par jour, par semaine, et qui croît de façon exponentielle à chaque fois que l'on cesse de réceptionner ces messages pendant un temps. Mais dans ce rêve, il y avait tout de même un mystère. Je ne pouvais pas avoir accès à ces messages qui s'accumulaient sans point d'arrêt, dans un rapport angoissant à l'infini. Je ne savais pas qui m'avait écrit, ni ce qu'il y avait à lire. Je ne savais pas d'où venaient ces messages. L'infini, la suite des nombres, le mystère. C'était presque un rêve aux échos pascaliens. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, écrivait Pascal à propos de l'univers. Ici, c'était l'infinité des messages à recevoir qui suscitait une angoisse. Faire un rêve de la sorte lorsque l'on est en analyse depuis de nombreuses années n'est pas anodin. Ce rêve me parlait aussi de mon angoisse, celle du fini et de l'infini, celle de comment finir de lire les messages de mon histoire, les messages de mon destin. Ce rêve ne disait-il pas dans les termes du monde contemporain ce qu'est une analyse, ce qu'est aussi l'expérience de l'inconscient? Déchiffrer les messages que l'on a reçus des autres, de l'autre, non pas en ouvrant son ordinateur, mais en parlant de ce qui a été dit de nous, des paroles qui nous ont marquées. C'est ce à quoi on se consacre dans une analyse. J'avais en effet pu, grâce à l'analyse, déchiffrer ces messages, repérer ceux qui avaient eu un effet déterminant dans ma vie, me détacher aussi de ceux qui avaient eu un effet nocif. Mais cette tâche pouvait être infinie. Peut-être était-il temps maintenant de remonter la chaîne de ces messages, de parcourir le même trajet à l'envers pour revenir au début, à rebours de la série des missives qui ne rencontraient pas de fin. Peut-être était-il temps de rebrousser chemin et de trouver le point originaire, celui depuis lequel j'avais déchiffré ces messages du destin d'une façon singulière. Peut-être était-il temps de retrouver ou de lire une lettre que je n'avais toujours pas reçue, car elle n'était pas encore arrivée à destination. Voilà ce qu'après coup, j'ai pu me dire du rêve, de ce rêve, une fois que l'analyse m'a permis d'avancer encore au-delà.
Clotilde Le Guil sur France Inter.
Savez-vous que c'est en s'intéressant à ses propres rêves que l'inventeur de la psychanalyse a découvert l'interprétation des rêves? Freud a saisi qu'il se jouait à travers les rêves un nouveau rapport à soi, à l'autre, à l'existence et peut-être au destin. Il a saisi que les rêves étaient des messages, non pas des messages prophétiques, ni des messages des dieux, mais des messages de l'inconscient. Un rébus à déchiffrer. Mais ça, me direz-vous, c'était au temps de Freud, au tout début du XXe siècle, en un moment où nous n'en étions pas encore à l'âge de la maîtrise technologique du vivant, à l'âge de l'imagerie cérébrale, en une époque où il était possible de croire en l'inconscient tant qu'aucune autre explication de cet étrange processus qu'est l'activité du rêve n'existait encore. On pourrait se dire, oui, Freud s'est intéressé aux rêves en son époque, en 1900, alors qu'il était en train de s'affronter au mystère des symptômes hystériques, et à l'énigme de la cause de la souffrance psychique. Mais nous n'avons que faire de ces divagations d'un autre temps. Nous avons changé de monde. Eh bien, figurez-vous que cette puissance du rêve, cette aptitude du rêve à nous faire découvrir le sens caché de notre désir, l'énigme de notre destinée, la trajectoire secrète de notre analyse, cette puissance du rêve est toujours d'actualité. Au XXIe siècle, le rêve reste la voie royale d'accès à l'inconscient. Une voie royale. C'est ainsi que Freud l'a baptisée dans l'interprétation des rêves. Des voies royales, il n'y en a pas d'autres. Il y a des sentiers à travers bois, il y a des chemins détournés, il y a des passages secrets. Mais de voie royale, il n'y en a qu'une, et c'est le rêve. C'est une voie d'accès inédite, à nul autre pareil, qui nous propulse dans un autre lieu. Avec le rêve, nous sommes au cœur de l'inconscient. Cela ne vous paraît-il pas incroyable ? Avec le rêve, je découvre que la scène de mon existence se joue ailleurs que là où je croyais. Quelque chose se réalise sans que je voie ce qui se réalise, à moins que je ne m'intéresse au langage des rêves, à leurs messages secrets, à leurs hiéroglyphes.
Thank you.
Mais, me direz-vous encore, au XXIe siècle, l'autre scène, ce n'est plus l'inconscient, ce n'est même pas le cerveau, c'est le monde virtuel. C'est en ce lieu que se joue dorénavant l'autre vie, la seconde vie, s'il y en a une. La scène virtuelle n'est-elle pas ce monde où je peux me propulser grâce à Internet, grâce à la doublure digitale de l'être et du monde qui s'étend toujours davantage dans notre civilisation. Plus besoin de me perdre dans les profondeurs du sommeil. Il suffit de cliquer pour y être, pour être là et ailleurs en même temps, sous une autre forme. Eh bien, la pratique de la psychanalyse en notre époque, où le numérique a envahi nos vies, permet de constater que l'expérience de l'inconscient reste vivante, unique. Car alors même que nos regards sont toujours plus sollicités par les écrans, nous continuons de rêver. L'inconscient survit à l'époque du monde virtuel, et les rêves aussi. Et heureusement, le monde numérique s'est même invité dans l'univers des rêves. Pour autant, les images du rêve sont d'un autre ordre que les images virtuelles. Elles ne nous font pas le même effet, car elles nous confrontent à une énigme en nous-mêmes. On voit quelque chose, mais sans rien y voir en même temps, c'est-à-dire sans rien y comprendre. Dans un rêve, le sujet suit une histoire, mais il ne voit pas où ça mène, disait Jacques Lacan. Car dans un rêve, nous ne comprenons pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas où ça va, à quoi ça rime, ce que cela veut dire. Et pourtant, nous nous laissons emporter par cette étrange histoire, ce scénario incohérent auquel il manque bien souvent une fin. Alors, revenons à Freud. Je disais que c'est en s'intéressant à ses rêves que Freud a fait l'expérience de l'inconscient. Mais cela a tenu à presque rien, à une contingence, à un hasard. Si Freud n'avait pas reçu une patiente qui faisait partie de son entourage, si cette patiente n'avait pas interrompu le traitement avant l'heure de la fin, si l'ami de Freud du nom d'Otto ne lui avait pas donné des nouvelles moyennes d'Irma un soir d'été, si Freud n'avait pas alors repris toutes ses notes avant d'aller se coucher pour s'interroger sur ce qui n'allait pas chez Irma, si Freud ne s'en était pas voulu de ce qu'Irma n'aille pas vraiment mieux, s'il n'avait pas prêté attention au petit matin, à ce qui s'était produit pendant la nuit, il n'aurait jamais rien su de ce rêve. Ce premier rêve, qu'il raconte dans l'interprétation des rêves, qu'il nous confie et qu'il considère comme le rêve qui lui a donné accès à l'interprétation des rêves, ne se serait jamais réalisé. Il faut imaginer Freud, qui n'a alors que 39 ans, qui n'est pas encore l'inventeur de la psychanalyse, se couchant un soir d'été dans la résidence bien nommée de Bellevue, qu'il louait pour y passer la saison avec sa famille. Il faut l'imaginer, plongeant dans le sommeil et faire ce rêve, à qui nous devons de pouvoir aujourd'hui encore, un siècle plus tard, nous sentir concernés par nos rêves. Cette nuit-là, la nuit du 23 au 24 juillet 1895, Freud fait un rêve à travers lequel il considérera qu'il a découvert l'interprétation des rêves. C'est un rêve qui fait événement pour lui et qui fera événement pour l'avenir de la psychanalyse. Un nouveau monde s'est ouvert, et Freud le savant, Freud le médecin, Freud le neurologue, est devenu Freud analysant ses propres rêves, Freud découvrant l'inconscient. Un peu avant de faire ce rêve, que s'est-il passé ? Freud a eu un échange téléphonique avec son ami Otto, à qui il a demandé des nouvelles de son ancienne patiente, Irma. Comment va Irma ? Bien, mais pas très bien, lui a répondu en substance Otto. Cette petite réserve sur l'état de la jeune femme va produire chez Freud un malaise, comme s'il pouvait se reprocher à lui-même qu'Irma n'aille pas tout à fait mieux, en dépit de la cure qu'elle a faite avec lui. Car Irma fait aussi partie de l'entourage de Freud, elle est très liée à sa famille. Et cette proximité redouble le malaise de Freud concernant l'état d'Irma. Cette nuit-là, Freud rêve d'Irma. Freud est même hanté par Irma. Quel est ce rêve ? Il est connu sous le titre que Freud lui a donné, du rêve de l'injection faite à Irma. Ce rêve étrange s'ouvre sur une grande réception. Freud aperçoit Irma parmi les invités et s'approche d'elle pour lui faire un reproche. Si tu as encore des douleurs, c'est de ta faute. C'est que tu n'as pas accepté ma solution. Mais Irma se plaint à Freud d'avoir mal à la gorge et de se sentir étranglée. Freud, inquiet d'avoir laissé échapper quelques symptômes organiques, amène Irma près de la fenêtre pour voir et examine sa gorge. Irma manifeste une résistance à ouvrir la bouche, comme par pudeur, puis finit par ouvrir bien la bouche. Là, surgit dans le rêve une étrange image de l'intérieur de la gorge de la jeune femme. Une image de l'invisible devenu visible, cet invisible de l'intérieur du corps est soudain mis sous les yeux du rêveur. C'est un voyage au cœur du corps d'Irma qui donne à voir une image qu'on pourrait comparer à celle d'un voyage au centre de la Terre. Là où apparaissent d'étranges reliefs, des crevasses, des profondeurs énigmatiques, des anfractuosités, et de curieux tissus, les muqueuses rougeâtres et humides, et puis le trou noir de l'intérieur qui se tient encore au-delà. Freud appelle alors ses confrères invités, le docteur M, son ami Otto et son ami Léopold, comme pour partager avec eux dans ce rêve cette étrange vision de ce qu'il y a dans la gorge d'Irma, au lieu d'où vient la parole. C'est une infection. Le poison va s'éliminer, dit l'un. Mais d'où vient cette infection ? Son ami Otto dit qu'il a fait récemment à Irma une injection de triméthylamine, alors qu'Irma était souffrante. Freud, le rêveur, voit alors apparaître une formule imprimée en caractère gras. La formule de ce produit chimique qu'est la triméthylamine. AZCHCHCH. Il est probable que la seringue n'était pas propre. Fin du rêve. Dans son livre « L'interprétation des rêves », Freud livre des associations d'idées sur chaque séquence du rêve. Il peut rapporter son rêve aux éléments de la veille, l'échange avec Otto, son malaise, le reproche qu'il s'est fait à lui-même qu'Irma n'aille pas vraiment mieux, et finalement, le désir de faire porter à un autre la faute. Le rêve réalise donc un désir de Freud. ce que Freud voit, c'est d'abord donc ce désir que les faits se soient passés autrement, qu'il ne soit pas responsable de l'état d'Irma, que ce soit un autre qui en soit responsable. Mais Freud avoue lui-même que la fin du rêve lui paraît obscure et plus touffue que le commencement. Et en effet, c'est bien la fin du rêve qui est cruciale, car c'est bien en cet endroit que surgissent des lettres. Lettres qui pourraient être celles d'une formule mystérieuse, celle de la chimie du rêve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettres qui se détachent en caractère gras et qui surgissent comme un message secret venu d'ailleurs? Le désir véritable qui se réalise dans le rêve n'est peut-être pas seulement le désir que Freud connaît déjà, celui de faire porter la faute à l'autre. Ne serait-ce pas un autre désir ? Le désir de découvrir justement ce que signifient les rêves. Cette formule qui surgit, ne s'apparente-t-elle pas à un oracle? Jacques Lacan plongera au cœur de cette partie finale obscure du rêve et y verra le véritable message du rêve. Si le rêve est la réalisation d'un désir, ici, le désir de Freud, au-delà de celui qu'il peut dire concernant Irma, est un désir inouï de savoir, un désir de savoir quelle est la formule du rêve, quel est le secret de son interprétation. Et son rêve lui dit en effet que le secret, ce sont les lettres, celles qui se sont inscrites en caractère gras. Voilà ce que Freud a véritablement découvert dans ce rêve, dans ce songe d'une nuit d'été, par-delà la question d'Irma, par-delà son sentiment d'avoir quelque chose à se reprocher. Le sens du rêve, son sens latent, est à déchiffrer à la lettre, comme un rébus. Ses rêves, dont ses premières patientes lui faisaient le récit, Freud désirait les déchiffrer. Il désirait les interpréter. Freud a commencé par s'intéresser aux symptômes hystériques et par apercevoir que ces symptômes avaient eux aussi un sens caché, qu'ils étaient des réminiscences d'événements refoulés. Mais le fait que ses patientes lui parlent de leurs rêves a éveillé en lui ce désir d'interpréter les rêves, ce désir d'en saisir la fonction, ce désir d'en saisir le sens mystérieux. Et c'est en s'intéressant aux siens, à ses rêves à lui, à son rêve, ce rêve que je vous ai raconté, le rêve de l'injection faite à Irma, qu'il a pu franchir quelque chose en lui-même, qu'il a pu percer cette énigme qu'il désirait tant percer, l'énigme du sens des rêves. Ni rêve prophétique, ni manifestation somatique, le rêve, au sens de Freud, est un message venu du désir en tant qu'inconscient. Nulle clé des songes, mais un rébus, une énigme, qui se formule à travers des lettres qu'il appartient au rêveur de déchiffrer. Le rêveur se faisant lui-même le champollion des hiéroglyphes de ses propres rêves. Chaque rêveur peut alors s'aventurer dans le déchiffrement de ses rêves. Et l'expérience de l'analyse permet d'aller plus avant dans ce déchiffrement et d'articuler ce déchiffrement à une histoire secrète et refoulée. Chacun, comme Freud, repart du point zéro, du point où il découvre l'inconscient lui-même, du point où un rêve, un songe, le confronte, comme il a confronté Freud, à une formule, quelques lettres, quelques mots, des bribes d'une histoire perdue, qui lui reste comme un talisman en témoignage de ce voyage fait au cœur de la nuit. Ainsi s'achève ce premier épisode sur le rêve.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Clotilde Le Guil.
Restez à l'écoute, juste après le disque, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté cet épisode en podcast, disponible sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr. Sachez que vous pouvez aussi nous laisser vos questions sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Avant nos échanges, je vous propose d'écouter Broken Sleep d'Agnès Obel. C'est à vous maintenant de poser vos questions et je vous écoute.
Bonjour Clotilde, je vous remercie chaleureusement pour ce podcast sur les rêves qui m'a beaucoup intéressée. Je suis Anaïs de Paris, je m'intéresse beaucoup aux rêves et je m'intéresse plus précisément aux sensations que me laissent mes rêves. Parfois, ces sensations me permettent de me remémorer plus précisément les rêves lorsqu'il ne me reste que des bribes. et elles me permettent surtout de les interpréter et de, comment dire, me rediriger dans ma vie ou grâce à aux interprétations de ces rêves. C'est-à-dire que je vais moins m'intéresser aux signes qu'aux sensations que le rêve me laisse. C'est-à-dire que si je me réveille en étant mal à l'aise, en étant un peu groggy, bougonne, cela va me permettre d'interpréter ce rêve. Et si je me réveille de très bonne humeur, je vais me remémorer mon rêve et je vais me dire « Ah oui, c'est vrai que ça signifie cela. Ok, d'accord. » Voilà. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle année et à très bientôt. Merci.
Merci Anaïs pour cette question qui porte donc sur les impressions que nous laissent les rêves au fond au réveil. Lorsqu'on se réveille, on ne se souvient pas toujours du récit du rêve, mais en effet, il peut nous rester quelque chose de l'ordre d'une impression ou d'un affect. Freud, lui, souligne que les impressions qui nous restent ne suffisent pas à interpréter le rêve, mais nous donnent en quelque sorte un indice sur un contenu caché du rêve, un contenu auquel nous n'avons pas accès immédiatement lorsque nous nous souvenons du rêve. C'est ce qui conduit Freud à distinguer le contenu manifeste du rêve, celui dont on peut se souvenir et qui semble incohérent, et le contenu latent du rêve qu'on va retrouver grâce à l'interprétation que l'on va pouvoir faire du rêve. C'est-à-dire que le récit du rêve ne délivre pas immédiatement une vérité. Il la déguise, il la déforme, il la cache en utilisant différents mécanismes, notamment que Freud nomme la condensation, le déplacement. Néanmoins, pour revenir à votre question sur l'impression que nous laisse un rêve, j'ai envie de faire référence justement à un rêve que Freud mentionne dans l'interprétation des rêves. Et figurez-vous qu'il pose exactement la question que vous posez. C'est-à-dire qu'une de ses patientes fait un rêve qui la renvoie à un événement absolument douloureux et tragique. Je vais vous dire ensuite lequel. Mais pourtant, au réveil, elle n'éprouve aucune peine. Donc, elle se fie à cette impression qu'elle a que ce dont elle a rêvé, qui devrait la toucher au point de l'affliger, la laisse au réveil avec une autre impression. Ce rêve que cette patiente de Freud a fait, c'est le suivant. C'est une patiente qui a une sœur et cette sœur a perdu quelques années auparavant un premier enfant. Et cette patiente qui n'a pas d'enfant s'occupe beaucoup du second enfant de sa sœur. Et elle rêve que ce second enfant, à son tour, vient à mourir. Et elle rêve de ce moment où chacun viendrait se recueillir autour de l'enfant mort. Et au réveil, elle dit à Freud, mais enfin tout de même, vous connaissez mes sentiments vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de Charles, l'enfant de ma sœur, vous savez à quel point je l'aime, à quel point je m'en occupe, enfin je ne peux pas être aussi méchante que d'avoir rêvé, au point de le désirer, que Charles meure. Et Freud va avec elle travailler justement sur le sens caché de ce rêve, sur toutes les associations d'idées qui vont lui venir à partir du rêve. C'est ainsi que Freud procède pour interpréter les rêves. Il s'agit de recourir à l'association libre. À quoi le rêve vous fait-il penser ? Et cette patiente va pouvoir associer à partir de ce rêve sur le souvenir de la mort du premier enfant. Et paradoxalement, la mort du premier enfant, qui était un événement tragique, cette mort a permis à la patiente à la rêveuse de revoir le jour de l'enterrement un homme, un professeur, dont elle est très amoureuse et qu'elle désirerait ardemment revoir. Mais évidemment, elle ne l'ose pas se l'avouer et elle n'ose surtout pas avouer que la mort de cet enfant qui l'a affligée elle-même a aussi été l'occasion pour elle de satisfaire le désir de revoir l'homme dont elle est amoureuse. Et donc, vous voyez cette impression qu'elle a eue, que ce rêve qu'elle a fait de la mort du deuxième enfant n'était pas triste, eh bien cette impression, Freud considère qu'elle est juste et qu'elle indique qu'il y a là un sous-texte, qu'il y a là un contenu latent dans ce rêve. Et au fond, le désir qui se réalise dans ce rêve sans pouvoir se formuler explicitement, ce n'est pas le désir que l'enfant Charles meurt à son tour, enfant auquel elle est très attachée, mais c'est le désir d'avoir l'occasion de revoir ce professeur qui est un ami de sa sœur et dont elle est éperdument amoureuse. Voilà en quel sens le travail de l'interprétation permet d'accéder à un contenu caché, déguisé, mais qui dévoile une vérité.
Oui, bonjour, je suis Pierre-Marie et j'apprécie énormément ces séries sur l'inconscient et la psychanalyse. Et sur la série sur le rêve, ma question en fait est la suivante. Voilà, en début de série, vous dites que le rêve est la voie royale pour accéder à l'inconscient. Et en fin de série, vous dites que le rêve traduit nos désirs inconscients. Du coup, peut-on dire que l'inconscient se résume en fait à nos désirs inconscients et en quoi prendre connaissance de cela peut nous permettre de guérir de nos souffrances. Voilà, merci.
Bonjour Pierre-Marie, merci pour votre question. En effet, c'est Freud qui définit l'interprétation du rêve comme la voie royale d'accès à l'inconscient. Et en effet, il a sorti cette définition de sa thèse, de ce qu'il a découvert, à savoir que le rêve est la réalisation d'un désir inconscient. Ça, c'est le premier point, si vous voulez, c'est vraiment le socle de la découverte freudienne concernant le rêve dans l'interprétation des rêves. Mais en effet, vous avez raison d'évoquer la souffrance. Et finalement, en psychanalyse, il y a toujours ce postulat que notre souffrance n'est pas seulement de la souffrance, ce n'est pas seulement un trouble, ce n'est pas seulement un dysfonctionnement. La souffrance dit quelque chose d'un désir qui a été étouffé, d'un désir écarté, d'un désir asphyxié. Et donc, on peut déduire de cela que de pouvoir interpréter son symptôme, et donc interpréter sa souffrance, en passant aussi par les rêves, peut permettre de déchiffrer son désir. Au fond, il y a cette idée qui est propre à la psychanalyse, que le rapport au désir ne relève d'aucune évidence, et que, comme le dit Lacan, que nous sommes étrangement frappés d'une impuissance à rejoindre notre désir. Et il nous faut bien souvent en passer par l'expérience de l'analyse, quand on rencontre une souffrance psychique intense, pour pouvoir rencontrer son désir.
Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 6 ans et demi et j'aimerais poser une question. Où M. Freud a trouvé ses lettres dans son rêve? Merci beaucoup.
Aurélien, ta question est extraordinaire et tu n'as que 6 ans et demi. Tu as l'âge justement où on apprend à lire, tu as l'âge où on s'intéresse aux lettres et je suis extrêmement frappée par la question que tu poses, qui montre que tu as très bien écouté le rêve de Freud et que ce qui t'a intéressé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ce rêve. Où Monsieur Freud a-t-il trouvé les lettres ? C'est en effet la question de ce rêve. Ces lettres, tu te souviens, ce sont des lettres qui apparaissent à la fin du rêve et qui renvoient à une formule chimique. Quand tu étudieras un peu plus tard la chimie, tu apprendras la façon dont on écrit avec des lettres, les différentes substances. Mais ici, en effet, ce qui est étrange, c'est que dans ce rêve, la formule qui fait apparaître les lettres en caractère gras ne surgit de nulle part. Donc quand tu dis où il a trouvé les lettres, on pourrait répondre oui, il les voit dans son rêve parce qu'il a fait des études de médecine, il a appris des formules chimiques, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est que dans ce rêve, si tu t'en souviens, il y a des personnages, il y a des paroles, et on voit, au fur et à mesure du rêve, qui parle. Freud parle, Irma parle, Otto parle, Léopold parle. Mais à la fin, plus personne ne parle, et ces lettres surgissent comme une formule sacrée. Et donc, Freud considère que ces lettres, elles viennent de l'inconscient. C'est cela l'inconscient. C'est justement ce que Freud a trouvé. C'est pourquoi tu as très bien formulé ta question. Où les a-t-il trouvés ? Il ne les a pas cherchés. Il les a trouvés, il les a rencontrés dans son rêve. Et à partir de cette rencontre, Freud va saisir comme en un éclair qu'un rêve est fait de mots, de lettres, et qu'il se déchiffre comme un rébus, comme une charade. Alors maintenant, Aurélien, quand tu rencontreras des charades, que tu tenteras de déchiffrer, eh bien, tu pourras penser aux rêves, penser à tes rêves, et essayer de les déchiffrer comme des charades. Je vous remercie pour vos questions et je remercie l'équipe, Rémi Sistiaga à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui relève vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, dans notre nouvelle formule polyphonique de l'inconscient, vous retrouverez Caroline Eliachef qui parlera de la prise de rendez-vous avec un psychanalyste. Vous pouvez d'ores et déjà l'écouter en podcast sur notre page L'Inconscient et lui laisser vos questions par note vocale ou au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 5 février pour poursuivre ensemble cette exploration de l'interprétation des rêves. J'aborderai les rêves et les disparus.